Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les députés britanniques rejettent toutes les solutions alternatives du Brexit de Theresa May, mais ils ne veulent pas du sien. Impasse encore à Londres, à 10 jours d'un éventuel Brexit dur, nous irons sur place. Vous entendrez ensuite un constitutionnaliste à propos de la démission annoncée d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. Elle lui demande à ce que la constitution du pays soit réécrite. Carlos Ghosn dans la tourmente en France, après le Japon. Renault s'interroge sur des versements de plusieurs millions de nous y reviendrons. Et puis, zoom en fin de journal sur un sujet encore tabou dans le milieu sportif, les violences sexuelles dans le sport. Un colloque est organisé ce matin à ce propos en région parisienne. Cellule de crise à Downing Street ce matin à Londres, à 10 jours du Brexit. Theresa May va discuter pendant 6 heures avec les principaux ministres du gouvernement, discuter pour tenter de trouver une solution à l'impasse actuelle. Si aucun plan ne se dessine d'ici le 12 avril, le Royaume-Uni risque de sortir de l'Union européenne sans aucun accord et pour l'instant, rien ne se dessine. Hier soir, les députés britanniques ont de nouveau rejeté les différents scénarios qui leur étaient proposés, Antoine Gignot.
Une nouvelle fois, les scénarios s'écroulent les uns après les autres. Organiser un deuxième référendum, c'est non. La possibilité d'annuler le Brexit, c'est non. Le maintien dans le marché unique, c'est encore non. Seule l'idée d'une union douanière semble un moment capable de rassembler les députés, mais elle est finalement écartée à 3 voix près. Mon parti refuse de faire des compromis, lance Nick Bowles, auteur de l'une des propositions qui quitte avec fracas le clan conservateur. Ambiance cour de récréation aussi chez les travaillistes. Jeremy Corbyn tente de réclamer un énième scrutin pour voir si ça ne se passerait pas mieux la prochaine fois. Et pendant ce temps, les Écossais fulminent. Un jour, vous verrez, on prendra notre indépendance. Au milieu des cris et du tohu-bohu, le gouvernement ne change pas de discours et présente toujours l'accord négocié par Theresa May avec Bruxelles comme la seule alternative à une sortie chaotique de l'Union européenne. Reste à savoir si la Première ministre peut prendre le risque d'organiser un quatrième vote sur son texte sans déclencher l'explosion du Parlement. Plusieurs dizaines de conservateurs lui demandent désormais ouvertement dans les médias de quitter Downing Street.
Il annonce quitter le pouvoir le 28 avril prochain, au plus tard. Abdelaziz Bouteflika démissionnera bel et bien. Voilà ce que disait hier un communiqué de la présidence algérienne. L'annonce pourtant pourrait ne pas suffire à calmer la contestation populaire qui dure depuis 1 mois et demi maintenant. C'est tout un système que les Algériens veulent voir disparaître. Plus qu'une élection avec les mêmes élus dans quelques mois, il faudrait donc, selon un constitutionnaliste, une assemblée constituante. Ce constitutionnaliste s'appelle Massensen Cherbi. Il propose de changer la loi fondamentale et il s'en explique.
La constitution algérienne prévoyant des pouvoirs totalement exorbitants pour le président de la République, le nouveau président qui serait élu, y compris démocratiquement, disposerait quasiment de pouvoirs de dictateur. Il faudrait appeler à une constituante qui déciderait déjà s'il y aurait des élections présidentielles à venir ou pas. Je rappelle qu'en Allemagne ou en Suisse ou en Italie, de grandes démocraties, il n'y a pas de président de la République élu au suffrage universel direct. Donc, appeler plutôt à une constituante, effectivement, puisqu'avec la constitution actuelle, finalement, nous tournons en rond. Elle a été faite par le régime et pour le régime. Et la réunion d'une constituante permettrait un réel processus démocratique de voir le jour.
Le constitutionnaliste Massensen Cherbi, interrogé par Thibaut Cavaillès. La Cour suprême du Venezuela, contrôlée par le régime du président Nicolas Maduro, la Cour suprême a demandé hier la levée de l'immunité parlementaire de Juan Guaido, chef de file de l'opposition au Venezuela. Hier également, le président Nicolas Maduro a changé de ministre de l'énergie alors que les coupures de courant s'enchaînent toujours dans le pays. Boeing doit faire mieux. Les autorités américaines demandent à l'avionneur de revoir les modifications apportées à son système anti-décrochage dans ses appareils 737 MAX. Ce logiciel est mis en cause, rappelons-le, après les crashs de 2 avions en moins de 5 mois. Quand Carlos Ghosn est pointé du doigt par Renault une seconde fois, c'est ce qui arrive en ce moment, puisqu'après l'affaire du mariage à Versailles, le groupe automobile fait un deuxième signalement à la justice française concernant son ancien patron. Il s'agit cette fois de versements suspects de plusieurs millions d'euros, des versements faits par Carlos Ghosn sur le compte d'un partenaire de l'Alliance au Moyen-Orient à Oman. Les explications de Maxime Debs.
Entre 2011 et 2016, Renault a, comme Nissan, versé pour plusieurs millions d'euros à la société chargée de distribuer les véhicules de l'Alliance dans le Sultanat d'Oman. Société qui intrigue depuis plusieurs semaines déjà les Japonais. C'est d'ailleurs Nissan qui a renseigné Renault. Mais de là à imaginer que Carlos Ghosn ait pu tirer bénéfice d'une double comptabilité, son avocat, maître Jean-Yves Le Borgne, sort le bouclier.
Il n'y a pas de différence entre les comptes de Renault et ceux de la présidence. Il peut y avoir une réserve qui est laissée à la discrétion, la décision du président. Cela n'exclut pas que d'autres personnes sachent que ces paiements ont lieu, en connaissent les raisons et soient à même, si par extraordinaire ces versements n'étaient pas fondés, de le faire savoir.
L'argumentaire est donc celui-ci. Aussi puissant était-il, Carlos Ghosn ne pouvait pas faire n'importe quoi. Pour les médias nippons, l'argent qui transitait par le Moyen-Orient lui aurait notamment permis d'acquérir un yacht pour lui et sa famille. Méfions-nous des emballements de la sorte, prévient son avocat, qui ne voulait hier soir pas commenter davantage, dans l'attente d'en savoir plus sur cette nouvelle affaire accablant son client.
Les réquisitions au procès de Bernard Tapie. Le parquet de Paris, hier, a demandé une peine de prison ferme, 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'homme d'affaires jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Cela fait suite à l'arbitrage à 403 millions d'euros avec le Crédit Lyonnais. Une fraude d'une singularité particulière pour les procureurs. Les avocats vont plaider aujourd'hui. Emmanuel Macron a-t-il entendu les professionnels et les élus à propos de la maternité de Creil dans l'Oise? Lors d'un déjeuner la semaine dernière, le chef de l'État a en tout cas surpris l'auditoire en critiquant à demi-mot la fermeture de cette maternité, fermeture décidée par l'Agence régionale de santé au profit de l'établissement de Senlis à 12 km de là. Paul Sébron a dirigé la maternité de Creil pendant des années. Il est aujourd'hui à la tête de son comité de défense et il se réjouit donc des propos présidentiels. Paul Sébron.
Le président de la République a répondu que les positions qui étaient prises à propos des fermetures avaient parfois une origine technocratique, enfin, et qui ne tenaient pas compte des réalités de terrain. Voilà. Et donc, il confiait au préfet le soin de remettre en route une réflexion à ce sujet. Voilà où nous en sommes. Parce qu'on pense principalement aux bébés, ce qui est important, bien sûr. Mais aussi, il y a pour les mamans des pathologies qui justifient les conseils des médecins qui appartiennent à différentes spécialités et qui n'existent pas actuellement du tout à l'hôpital de Senlis. Mais aussi, il n'y a pas de transport en commun entre Creil et Senlis, aucun. Vous imaginez cette difficulté dans laquelle s'est enferrée la direction. C'est invraisemblable, cette situation. C'est unique en France, hein. En dehors de Paris, il n'y a pas de maternité de niveau 3 qui est fermée.
Une maternité de niveau 3 à Creil, donc, qui couvrait jusque-là 150 000 habitants. C'était Paul Sébron, interrogé pour France Culture par Tara Schlegel. La fermeture des services publics, c'est un thème qui a animé le grand débat national pendant quelques semaines, un grand débat voulu par l'exécutif. Aujourd'hui et demain, les discussions se feront à l'Assemblée nationale, au menu du jour dans l'hémicycle, transition énergétique, fiscalité et finances publiques, et ce malgré le scepticisme de l'opposition qui n'y voit pas l'intérêt. Du débat encore, cette fois avec les professionnels du sport et sur un thème bien précis, les violences sexuelles, car la libération de la parole a encore du mal à se faire dans le milieu sportif. Si les associations notent un frémissement, elles organisent tout de même aujourd'hui un colloque en présence de la ministre, Roxana Maracineanu. Théo Conscience s'est demandé pourquoi les sportifs tardent tant à s'exprimer sur le sujet.
Comment expliquer l'omerta sur les violences sexuelles dans le milieu sportif? Avec l'association Comité Éthique et Sport, Maître Laure de Nerveau accompagne juridiquement des athlètes victimes d'agressions ou de viols. Elle pointe qu'avant de pouvoir briser le silence, ces personnes doivent d'abord prendre conscience de ce qui leur est arrivé.
Ce sont effectivement des gens qui sont victimes de ces agressions dans un cadre sportif, donc normalement soit une détente ou peut-être une passion. Donc par essence, elle n'a pas pour objet d'être victime d'une agression quelconque. Donc il y a un certain temps pour se rendre compte que ce qui se passe là n'est peut-être pas normal et comment gérer la situation.
Une prise de conscience d'autant moins évidente que le milieu sportif est aussi marqué par le culte de la performance. Véronique Lebar est la présidente du comité éthique et sport. Elle apporte aux victimes une aide psychologique. Pour cette ancienne médecin du sport, la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort » porte en elle le germe du silence des victimes.
C'est une phrase qui berce tous les sportifs. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette phrase? Elle dit qu'il faut tenir pour la victoire, pour la médaille. Et ça, je pense que c'est capital. Parce que très souvent, les sportifs prennent la violence sexuelle ou la maltraitance comme un xième challenge. Ils le vivent et c'est en même temps une façon de le banaliser, de le rationaliser, un déni.
Pour empêcher cette banalisation, le comité éthique et sport accompagne les victimes mais fait également des formations auprès des dirigeants et des encadrants sportifs car eux aussi ont un rôle à jouer dans la fin de cette omerta.
Et à l'occasion du colloque aujourd'hui, une nouvelle mesure sera présentée. Les bénévoles dans une association sportive, les bénévoles devront présenter un casier judiciaire vierge pour pouvoir être en contact ensuite avec des mineurs. Le temps s'annonce perturbé ce mardi, voire orageux. Quasiment toutes les régions seront touchées par la pluie et les grisailles. Les températures ce matin restent plutôt stables avec 11 degrés à Nantes et Lille, 14 à Paris, 16 à Nice.